Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur le 93.1 Aligre FM. Je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle édition de Version originale, comme chaque samedi à 19h. Il y a des fantômes qui nous collent au talon. Le mien était appelé Casimir Fidèle, nègre traiteur à l'hôtel de l'Empereur à Bordeaux. C'est avec ces mots que Julie Duprat ouvre son livre sur l'histoire de Noir affranchi. Casimir Fidèle, 1748-1796, parcours de l'affranchi, publié chez CNRS Éditions. Mis en esclavage à l'âge de 6 ans, débarqué à Nantes, revendu à des maîtres parisiens qui décident de le faire devenir cuisinier, puis se retrouve à la tête d'un hôtel à Bordeaux. C'est l'histoire de Casimir Fidèle que nous raconte Julie Duprat. Bonsoir Julie Duprat.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Donc vous êtes archiviste paléographe. Conservatrice à la bibliothèque historique de la ville de Paris, membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Dans votre récit, Julie Duprat, l'intime rejoint l'histoire. Votre livre donc, nous rappelle que ce que l'on désigne sous le vocable esclave n'est pas une masse d'hommes et de femmes informes, mais des individualités, des singularités, des êtres de chair et de sang avec la complexité et la profondeur de leur cœur et leur âme. L'un des aspects de votre ouvrage, dit Duprat, c'est qu'à travers l'histoire d'un homme, vous approchez au plus près, selon moi en tout cas, la tragédie de l'esclavage en nous montrant des réalités insoupçonnées, dissimulées. En parcourant l'itinéraire de Casimir Fidèle, nous comprenons, nous ressentons davantage ce qu'était l'esclavage dans ses aspects les plus complexes. On comprend, en lisant votre livre, que vous avez passé beaucoup de temps à travailler sur l'histoire de Casimir Fidèle, que moi je ne connaissais pas cette figure, on va en parler. Vous êtes impliqué dans le récit, vous êtes à côté de lui, vous employez souvent le jeu, vous confiez vos difficultés dans la recherche, dans le travail de recherche. Et alors, je précise bien qu'à cela s'ajoute une approche méthodique, une approche archivistique. Ce jeu très subjectif n'exclut pas du tout, bien au contraire, la méthode de travail de recherche très, 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 très poussée. Alors, première question, Julie Duprat, depuis quand ce fantôme vous accompagne-t-il ?
Alors, Casimir Fidèle me hante, je pense, depuis quasiment 10 ans. Enfin, même 10 ans, tout pile, parce que je l'ai rencontré, comme j'aime bien le dire, lorsque j'étais en train de préparer ma thèse d'École nationale des chartes, thèse que j'ai soutenue en 2017 et que j'ai commencé 2 ans avant, donc 2015-2025. Le calcul est vite fait. Donc, effectivement, ça fait 10 ans que Casimir Fidèle m'accompagne dans ma recherche. Et c'était une découverte assez fortuite à un moment de ma recherche où j'avais commencé à potasser beaucoup d'ouvrages d'érudits bordelais qui souvent n'étaient pas forcément historiens ou étaient des personnes qui s'étaient arrêtées au grade du DEA à l'époque ou du Master 1, Master 2, mais qui avaient eu l'avantage des fois d'aller chercher des archives locales assez précises que moi je n'avais pas le temps d'aller voir. Et donc je les lisais un peu pour me faire à la fois une idée de ce qu'était le Bordeaux du XVIIIe siècle, qui était donc le cadre de ma thèse et que je voulais vraiment bien appréhender d'un point de vue historique et local. Et puis je me disais aussi avec un peu de chance, peut-être que je vais croiser des mentions d'archives que moi je n'aurais pas eu l'idée d'aller fouiller et qui vont me donner des noms supplémentaires de personnes d'origine africaine ayant vécu à Bordeaux à la fin du XVIIIe siècle. Puisqu'à l'époque, mon objectif premier, c'était vraiment de recenser toutes ces personnes, d'en faire une comptabilité un peu austère, mais voilà, d'avoir des chiffres, quel était leur genre, quel était leur statut, esclave ou pas esclave, et puis à terme, progressivement aussi, de pouvoir commencer à tracer des destins et être dans un rapport beaucoup plus qualitatif à ces données. Et plus proche aussi et moins juste compter des personnes qui était la base par laquelle il fallait commencer, mais je voulais aller plus loin. Et donc en faisant cette recherche, en allant voir, en lisant ces masters, ces petites compilations d'érudits locaux, je suis tombée sur un ouvrage d'un érudit qui s'appelle Albert Roche, qui avait écrit une histoire du Bordeaux au XVIIIe siècle où il passait un peu en revue les différents quartiers bordelais. Et il indiquait qu'un jour, Cagliostro s'était rendu à Bordeaux. Le comte de Cagliostro, qui est une figure assez connue, qu'on travaille sur le XVIIIe siècle, c'est vraiment une figure mythique d'un homme voyageur, un peu mythomane. Et donc, il s'établit à Bordeaux et il indique dans une des lettres adressées à son ami que l'immeuble d'à côté est occupé par un nègre traiteur nommé... je sais même pas s'il dit son nom, mais il dit nègre traiteur s'il est nommé fidèle. Donc je vois cette mention et tout de suite c'est une mention qui m'a vraiment prise parce que c'était la première fois que je voyais ces deux adjectifs-là être mis côte à côte. Mmh. J'avais vu passer beaucoup de figures d'esclaves, mais une figure de quelqu'un qui est qualifié de nègre à l'époque, ce mot a déjà le poids très fort.
Mais c'était courant. Hein, c'était
oui,
courant,
c'était courant. Bien sûr. Mais il y avait déjà une grosse charge raciale autour de ce mot. Les hommes noirs libres n'aimaient pas se faire appeler nègre. À la Révolution, beaucoup d'entre eux ont demandé à ce qu'on les appelle noirs plutôt que nègres, parce que l'idée derrière le nègre, c'est qu'il y avait vraiment une notion de servitude qui était très forte et très ancrée. Donc quand on appelait quelqu'un nègre, a priori, c'est qu'il avait été mis en esclavage à un moment ou à un autre. Et à côté de ça, on avait donc le terme traiteur qui lui renvoie à un artisanat du luxe, en l'occurrence cuisiné, souvent à destination des élites dans le cadre de grands banquets. Mais on est vraiment dans un cuisinier qui a été formé longuement. Et donc de voir ces deux adjectifs côte à côte, ça m'a beaucoup étonnée. Et à partir de là, en fait, c'est une figure qui n'a jamais cessé d'être en arrière-plan de tout. C'est-à-dire que dès que j'avais un peu de temps en parallèle de toutes les autres figures et les autres phénomènes que j'ai étudiés, ben, j'essaie de me consacrer un petit peu plus à lui. Et puis voilà, quoi, une fois qu'on embarque dans une recherche, Casimir, en l'occurrence, il ne m'a jamais vraiment lâché. Mmh. Et donc c'est ce qui fait aussi que j'ai voulu écrire une biographie sur cet homme quelques années plus tard.
Alors, donc il est natif d'Arada, sur la côte de Guinée, oui. En 1754, donc Casimir Fidèle a 6 ans. C'est de ce moment donc, que vous partez pour écrire l'histoire de cet esclave. Vous émettez donc deux hypothèses. La première est qu'il serait né esclave, car dans sa région, écrivez-vous, dans sa région de naissance, la moitié de la population est ainsi toujours réduite en esclavage au XVIIIe siècle, précisez-vous. 19e, pardon, tout à fait. La seconde hypothèse est que Casimir Fidèle a été capturé lors de razzias dans les villages de l'arrière-pays. Alors, donc, à l'âge de 6 ans, il est capturé et jeté dans un navire négrier pour être déporté en Amérique. Sur le navire, il est repéré par le second du capitaine, donc Nicolas Marie, enfin c'est ce que vous nous racontez, qui va en faire sa propriété. C'est terrible, mais il va en faire sa propriété. En même temps, son protégé en quelque sorte. Oui. Après une arrivée sur les côtes de Saint-Domingue, le navire repart pour la France et le tout jeune Casimir Fidèle débarque à Nantes. Alors c'est intéressant parce que vous restez quelques instants sur quelques lignes sur la ville de Nantes. Hein. Oui. Je le disais, donc votre livre permet de percevoir des aspects ignorés et insoupçonnés de la réalité de l'esclavage des Noirs. Profitons donc justement de cette étape à Nantes pour évoquer un aspect très important que vous soulignez. Les Nantais, écrivez-vous, sont intimement familiers à l'esclavage. Vous dites que quand vous réalisez des interventions, il vous faut lutter contre l'idée selon laquelle l'esclavage n'a jamais existé dans l'Hexagone sous prétexte que le sol français rendait libre. Donc tout esclave, j'ai souvent lu ça, partie des colonies qui débarquaient en France était de facto libre. Vous soutenez, vous dites que c'est inexact, c'est faux, que effectivement il y avait des esclaves en France dans l'Hexagone. Expliquez-nous.
Absolument. Bah, des esclaves en France dans l'Hexagone, je sais que c'est faux parce qu'on les a comptés avec mes collègues historiens. Il y a eu plusieurs dictionnaires qui ont été réalisés sous la direction scientifique d'Éric Noël et qui a permis de montrer qu'il y avait plus de 21 000 personnes d'origine africaine qui ont vécu en Hexagone et 80% d'entre elles étaient là avec le statut d'esclave. Donc ça montre bien que cette maxime qu'on répète à l'envi, le sol de France rend libre au XVIIIe siècle, elle ne s'applique plus. Dans les faits, c'est une maxime qui a eu un peu cours au XVIe, XVIIe siècle, donc dans les premiers temps de la colonisation. Mais à partir du moment où la société coloniale et la production coloniale devient un atout économique pour la France, et où il y a de plus en plus de colons qui s'implantent, etc., d'un coup, il n'est plus question que les esclaves qui arrivent en métropole soient automatiquement affranchis. Pour les propriétaires, d'un point de vue très concret, pour eux, c'est une perte d'argent. Mmh. si on les menace à chaque fois, si la menace est effective, qu'à chaque fois qu'ils amènent des esclaves en France, ils sont affranchis, ils perdent au change. Donc ces propriétaires-là, ils vont commencer à faire un lobby dès la toute fin du XVIIe siècle et de manière plus intense dans les premières décennies du XVIIIe siècle pour faire évoluer la législation. L'idée, c'est d'avoir une législation qui soit un petit peu plus en phase entre l'Hexagone et les colonies, où pour le coup, aux colonies, le Code noir est appliqué depuis 1685 et légifère et légalise totalement la notion même d'esclavage. Donc eux, les colons propriétaires, leur but, c'est d'arriver à faire en sorte que même si le Code noir ne s'applique pas en France parce qu'il ne s'appliquera jamais là-bas, mais c'est qu'on ait vraiment un alignement quand même de certaines vues entre ces deux espaces. Et donc un de leurs combats, en priorité, ça va être de faire reconnaître que l'esclavage, l'affranchissement pardon, n'est pas automatique du moment qu'un esclave mette le pied en France métropolitaine. Et ils vont obtenir qu'il y ait une continuité de statut qui s'applique entre les colonies d'où ils arrivent, donc Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe, et la France hexagonale. Donc ça, c'est leur demande première. Et à cela va s'ajouter une deuxième couche par-dessus, qui est la couche administrative, la couche réglementaire, qui est celle du gouvernement français, qui, lui, va en profiter pour, tout en assurant effectivement que les esclaves qui débarquent en France hexagonale demeurent esclaves, va soumettre ça à un certain nombre de conditions qui lui permet aussi, en théorie, de surveiller ces flux de population, de les réguler. Donc, ils vont demander à ce qu'il y ait des frais qui soient payés, par exemple, par les propriétaires, qu'ils doivent être enregistrés théoriquement par l'administration. C'est fait la plupart du temps, mais pas systématiquement. Donc, ça vient aussi, cette législation-là, à la fois, donc, c'est une volonté des colons, et puis ça vient aussi dans tout un mouvement administratif en France métropolitaine qui vise à encadrer un peu mieux tout un tas de phénomènes et à se rapprocher de ce qu'on connaît aujourd'hui qui est l'État moderne. On est vraiment toujours dans ce mouvement-là. Donc ces deux mouvements conjoints vont faire qu'effectivement on a des législations qui sont édictées par trois moments au XVIIIe siècle. La première fois en 1716, la deuxième fois en 1738 et la dernière en 1777 et qui garantissent que les esclaves gardent leur statut du moment que les propriétaires se soumettent à une série de règles et les respectent. Malgré tout, on se rend compte que cette loi, elle va surtout être là pour garantir aux propriétaires que leurs esclaves restent esclaves, parce que beaucoup d'entre eux ne vont pas les faire dans les termes convenus par la loi, ne vont pas enregistrer leurs esclaves, vont les faire habiter plus longtemps que prévu sur le sol métropolitain. Et malgré tout, c'est assez rare que ça soit une raison qui par la suite provoque l'affranchissement des esclaves, puisque c'était une des menaces brandies par le gouvernement français, c'était que si les propriétaires ne se soumettaient pas à différentes règles, on pouvait affranchir légalement leurs esclaves. Et dans les faits, ça arrive pas très fréquemment, donc on voit aussi qu'il y a un contournement de la loi qui est effectué avec des propriétaires qui font même partie des élites de la France métropolitaine, qui connaissent les autres élites de la France métropolitaine, donc ils sont rarement poursuivis en fait.
Donc je... Pardon, c'était la petite virgule, c'est pas grave. On poursuit. J'attendais juste le petit jingle qui devait arriver, c'est pas grave. Vraiment. Alors, Casimir Fidel donc va quitter Nantes pour Paris, où il reçoit une formation de cuisinier. Est-ce que vous savez pourquoi c'est ce métier en particulier qu'on lui impose?
Alors, ça aurait pu être un autre, notamment celui de perruquier, qui est aussi très à la mode à l'époque. Mais le XVIIIe siècle, c'est un moment où la gastronomie française elle a déjà des lettres de noblesse, mais on va dire qu'il y a une vraie mode de l'art culinaire. Notamment à la tout début du XIXe siècle, c'est là qu'on a les premières... Il y a Antonin Carême, par exemple, qui est très connu. Voilà. Donc on a aussi au XVIIIe siècle une première mode assez forte autour de la gastronomie. Et les élites font de plus en plus attention aussi à ce qu'elles mettent sur la table. C'est un moyen de se faire reconnaître, un moyen de se faire valoir auprès des autres. Et donc dans cette continuité-là, le métier de cuisinier devient un métier qui est de plus en plus reconnu socialement. En tout cas, au sein de la domesticité, ça devient un des rôles qui, hiérarchiquement, commence à s'élever et à se distinguer du reste domestique qui ont des rôles plus généraux et plus polyvalents. Et donc, on choisit de mettre Casimir Fidel en apprentissage comme cuisinier dans une espèce de double logique. Déjà, la mise en apprentissage, c'est l'une des raisons qui autorise la venue en France d'esclaves pareil, c'est toujours très théorique, mais théoriquement, c'est comme ça que ça se passe. La deuxième, c'est qu'il y a quand même cette association qui est de plus en plus forte entre des personnes qui sont physiquement associées à la production coloniale, notamment à la production du sucre. Et donc, quand on voit Casimir apprendre à manipuler le sucre, entre autres, alors que lui-même est noir de peau et que Colony, ce sont également des personnes noires qui vont produire ce même sucre, il y a une espèce comme ça de convergence de tout un imaginaire exotique et de tout un imaginaire colonial qui jouera en sa faveur ultimement. Mais c'est ce qui explique en grande partie qu'il soit placé... comme cuisinier à ce moment-là, et notamment comme pâtissier. Les pâtissiers, ce sont ceux qui manipulent toute forme de pâte, pâte sucrée et pâte salée aussi, mais ça veut dire que Casimir a été formé aussi à l'art du dessert, pas que, mais aussi à cet art-là, à un moment où le sucre, le chocolat, le café sont de plus en plus en vogue, et sont une culture aussi coloniale qui envahit l'Europe.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
En compagnie de Julie Duprat qui publie Casimir Fidèle, 1748-1796, Parcours de l'infranchi, publié chez CNRS Éditions. Casimir Fidèle donc arrive à Bordeaux et donc il est acheté par la famille Soissons-La Montaigne. Là encore, donc, à ce moment-là, il faut nous situer. Qu'est-ce que c'est que Bordeaux à cette époque-là? Juste une précision, la ville de Bordeaux fait partie de ce qu'on appelle les ports de l'Atlantique, comme le Havre, comme Bristol en Angleterre, etc. Et notamment, on sait que la ville de Bordeaux, quand Saint-Domingue, donc l'actuel Haïti, acquiert son indépendance en 1804, la ville de Bordeaux, semble-t-il, met un genou par terre. C'est pour donner l'importance de ce que ça représentait la colonie pour cette ville-là. Alors, dans cette ville où il débarque, où il est acheté par une grande famille quand même, propriétaire puissante, c'est quoi le Bordeaux de cette époque? Comment est-ce qu'on est noir dans cette ville-là?
C'est une bonne question. Déjà, on est noir dans le premier port colonial français. À l'époque, Bordeaux, c'est le quatrième port négrier, donc celui qui, en termes de volume... il n'est pas sur le podium par rapport à d'autres villes atlantiques. Par contre, c'est le port qui fait le plus de voyages en droiture avec les colonies, c'est-à-dire ces allers-retours qui consistent à envoyer ou à rapatrier entre les colonies et la métropole à la fois des nouveaux colons, des nouveaux émigrants, et puis aussi tout ce qui est produit aux colonies, donc le sucre en particulier. Le café un petit peu, et puis envoyer à l'inverse aux colonies tout un tas de produits manufacturés qu'on ne produit pas là-bas. Donc ça, ce va-et-vient, c'est à Bordeaux qu'il est le plus important quand on le compare à toutes les autres villes atlantiques. Donc Bordeaux, à l'époque, vit en très grande partie de ses liens avec les Antilles et de tout ce pouvoir économique, parce que vraiment c'est ce qui va faire la richesse de Bordeaux aussi au XVIIIe siècle, c'est ces va-et-vient entre Bordeaux et les colonies, et c'est cet enrichissement à partir notamment des plantations esclavagistes qui vont produire le sucre, qui est un aliment qui est extrêmement demandé en Europe, comme je l'ai rappelé il y a 5 minutes. Donc Bordeaux à l'époque, c'est vraiment ce hub colonial où il y a tout le temps, constamment, des bateaux, plus ou moins certaines périodes de l'année, mais globalement, il y a toujours des va-et-vient. Beaucoup de personnes aussi qui ont vécu aux Antilles. À Bordeaux, on n'est pas dans une ville qui est, du coup, cloisonnée sur elle-même. Il y a beaucoup de Bordelais qui ont vécu aux Antilles ou qui connaissent des personnes qui ont vécu aux Antilles. Donc, il y a aussi toute une culture créole qui se diffuse et qui fait partie du quotidien. Quand Casimir arrive à Bordeaux, il n'est pas seul. C'est pas le seul noir de la ville, loin de là. J'ai estimé que pour la fin du XVIIIe siècle, on a environ 300 esclaves qui vivent à Bordeaux dans la décennie en instant T, et une petite centaine de libres de couleur. Donc déjà, il faut s'imaginer qu'il n'est pas seul. Et il est d'autant moins seul que la famille qui va l'acheter, qui est la famille La Montaigne-Soissons, eux, vous l'avez dit, c'est une famille de grands planteurs. Plus exactement, c'est l'alliance, comme il y en a beaucoup à Bordeaux à l'époque, entre une fille de planteur qui a hérité d'un plan de plantation avec son frère et un fils de nobles bordelais qui sont la famille de la Montaigne, qui est une famille de parlementaires, en tout cas qui gravite autour des grandes institutions bordelaises. Donc les deux se sont alliés, ont vécu quelques temps aux Antilles. D'ailleurs, la femme Soissons n'a jamais... elle est née aux Antilles, son père était né aux Antilles et elle n'est venue à Bordeaux qu'à l'âge de 30 ans, plusieurs années après son mariage. Et donc, toute la famille finit par repartir à Bordeaux. Et là, à Bordeaux, ce qui est très intéressant, c'est que cette famille va véritablement importer avec elle son mode de vie et va mettre en place ce que je n'ai vu qu'avec eux, c'est-à-dire qu'ils vont ramener progressivement plusieurs esclaves avec eux. Ils vont les faire venir par des systèmes sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais en tout cas, ils font venir plusieurs esclaves chaque année, de sorte qu'à Bordeaux, leur domesticité, elle est majoritairement noire. Ils ont 12 domestiques à leur service. Il y en a 10 qui sont noirs, dont la grande majorité sont des esclaves, et 2 qui sont des domestiques originaires du Périgord. Et ça, pour le coup, c'est vraiment du jamais vu. À Bordeaux, c'est la seule famille qui a autant d'esclaves domestiques à son service et qui a comme ça une inversion de la proportion entre les domestiques blancs et les domestiques noirs, puisque l'usage à Bordeaux, c'est plutôt d'avoir beaucoup de domestiques blancs qui sont majoritaires d'un point de vue purement numérique, et souvent d'avoir un esclave ou deux qui font un peu figure comme ça, qui sont des personnalités qu'on va mettre en avant à l'arrière de son carrosse ou lors des grands banquets, voilà, qui sont vraiment là dans des figures de... J'arrive pas à trouver mes mots, mais qui sont là pour, une fois de plus, faire valoir la fortune du propriétaire. Et là, les Soissons de la Montaigne, c'est tout l'inverse. Eux, on voit qu'ils sont moins dans une logique... Ils sont quand même dans cette logique d'apparat, mais il y a aussi un truc très concret, visiblement, pour eux, où ils sont habitués à ce que leurs domestiques, ce soit des domestiques noirs. Donc, en métropole, ils recréent ce qu'ils ont aux Antilles. Ils refont venir tous les domestiques qui avaient a priori chez eux sur la plantation pour les faire travailler à Bordeaux. Et ça, pour le coup, je pense que ça a dû être un certain choc pour Casimir Fidèle, parce que c'est la seule famille où je vois ça, donc j'imagine assez facilement que lui non plus n'a jamais vu ça avant d'arriver chez les La Montaigne Soissons. Il n'a jamais été un travailleur noir au milieu de d'autres travailleurs noirs. Jusqu'ici, c'était plutôt sans doute quelqu'un d'isolé qui travaillait avec des domestiques blancs, en côté de domestiques blancs, en adoptant la langue française, mais jamais dans une telle... il n'a jamais été à ce point-là... lié, et il n'a jamais été à ce point-là amené à travailler au quotidien avec des gens qui lui ressemblent et qui pourtant ne partagent pas la même culture que lui, parce que lui, donc à l'époque, quand il arrive à Bordeaux, il a 30 ans, ça fait 25 ans ou presque qu'il a été déporté, il parle le français, et les personnes avec qui il travaille, par contre, sont des domestiques qui ont été du coup importés de la plantation. Eux, ils arrivent avec une culture très différente de la sienne, notamment linguistique. Donc ça suppose aussi tout un tas de relations au sein de la cellule enquière, domestique, qui est peut-être pas aussi évidente que ce qu'on pourrait supposer.
Alors, il faut rappeler donc qu'il sera donc affranchi, c'est-à-dire donc c'est cette famille donc dont il était la possession, donc va lui rendre sa liberté. Il se marie avec une femme blanche. Mm-hmm. Alors visiblement donc ce mariage-là, ce type d'union, je vous cite, rencontre moins d'opposition qu'à Bordeaux. Une grande part de la population semble indifférente à cette affaire. C'est-à-dire que visiblement ce mariage, on est quand même en plein 18e siècle, esclavagiste, comme vous l'avez dit. Ce mariage entre cet esclave affranchi noir et une femme blanche a l'air de se faire naturellement.
Oui, alors après, je tiens à mesurer. C'est la sensation que j'ai aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, je reviendrai sur ce que j'ai dit, si j'ai plus de données. Mais le fait est que...
Alors, précision, il est baptisé.
Il a été baptisé à Nantes. Mm-hmm. Il est tout à fait chrétien, donc il a tout à fait le droit, maintenant qu'il est libre, de marier... sa femme, qui s'appelle Ursule Lachaise. Mais leur mariage arrive à un moment où, effectivement, il y a des débats autour de la légalité de tel mariage. Et ce qui est intéressant, c'est que les vues sont très différentes entre, par exemple, le ministère de la Marine, l'Église et le roi. Et qu'in fine, puisque personne n'arrive à s'accorder, en fait, il n'y a pas de législation... il n'y a rien qui interdit le mariage des personnes de couleur et des personnes blanches. Du coup, ça laisse un peu la libre appréciation de ce qu'on fait à l'échelle locale. Et on remarque qu'effectivement, entre différentes villes, la réception de ce genre de mariage ne semble pas être la même. À Nantes, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Mais encore une fois, c'est qu'une impression qui peut-être sera remise en cause par des travaux ultérieurs. À Bordeaux, moi, l'impression que j'ai, à force d'avoir rassembler plusieurs informations, c'est que ces mariages se font plutôt facilement du moment que les personnes n'appartiennent pas à une élite de la population qui, elle, pour le coup, est vent debout contre ces unions qui viennent remettre notamment en cause le principe du privilège blanc qui est très important aux Antilles parce que c'est ce qui permet de sectoriser les différentes couches de la population et de faire en sorte notamment d'avoir toujours le pouvoir et le contrôle sur les populations de couleur. Donc, mis à part les élites bordelaises qui, elles, se sont exprimées quelques fois sur le fait qu'elles étaient opposées à ce genre de mariage, quand ces unions-là ont lieu dans des catégories plus populaires, j'ai jamais trouvé d'opposition excessivement franche, ou en tout cas, elles sont beaucoup plus rares que les approbations. Et donc dans le cas de Casimir Fidèle, on sait que ça s'est bien passé en l'occurrence, puisqu'on a la chance d'avoir gardé une lettre qui a été envoyée par sa belle-mère sous la Révolution à sa femme. Et cette lettre, elle montre très bien que la belle-mère de Casimir Fidèle, elle a complètement accepté son gendre, qu'elle n'était pas du tout dans l'opposition, qu'elle a même aidé le couple financièrement, qu'elle les a visités plusieurs fois. On est vraiment dans une famille recomposée qui semble très bien fonctionner. Et je dis recomposée parce que Ursule Lachaise a été veuve lorsqu'elle marie Casimir Fidèle. Donc c'est intéressant. Et aussi, ce qui est intéressant avec ce mariage-là, c'est qu'il y a des raisons qui supplantent en fait la couleur de peau. En l'occurrence, Ursule Lachaise était une femme veuve, a priori une mère... Elle a aussi un enfant hors mariage, et c'est ce qui expliquerait en grande partie le fait qu'elle ait quitté son village d'origine, sa ville d'origine qui était Brive-la-Gaillarde, pour venir s'établir à Bordeaux. Et à l'époque, au XVIIIe siècle, malgré le racisme qui peut exister, on a aussi d'autres critères qui sont plus importants dans la vie, en l'occurrence, ne pas vivre en concubinage, ne pas faire d'enfant hors mariage. Ça, c'est la moralité qui surplombe... la vie quotidienne. Et donc, c'est plus important de vivre de manière morale pour la famille d'Ursule Lachaise que leur fille épouse un Africain. C'est pas ça qui semble effectivement les chagriner.
On poursuit donc le parcours et l'itinéraire de Casimir Fidèle avec vous, Julie Duprat. Je rappelle le titre de votre livre, Casimir Fidèle, parcours de l'infranchi. On en parle juste après la musique.
Oh,
Eric Abadou, Run and On sur Allegre FM 93.1. Vous êtes dans version originale. Je reçois Julie Duprat qui publie Casimir Fidèle, Parcours de l'infranchi aux éditions chez CNRS Éditions. Pardon. Je vous cite, Julie Duprat. Vous précisez que je ne pense pas que Fidèle ait été trop moderne pour son temps. À Bordeaux, ils sont au moins une petite dizaine de coupes métisses. En revanche, cette image de modernité qui semble lui coller à la peau interroge notre propre passé, notre propre rapport au passé. Si Fidèle me fascine autant, c'est que sa simple existence rebat complètement l'image que l'on peut se faire de la société française d'Ancien Régime.
Oui.
En quoi cela porte-t-il justement un regard différent de celui que nous avions de l'Ancien Régime ?
Ben, je pense que spontanément, quand on demande à quelqu'un de décrire c'est quoi pour vous le 18e siècle français, il va avoir, bon déjà il va penser à Marie-Antoinette, il va avoir des images comme ça très lisses de ce que c'est le 18e siècle. Il va peut-être citer les châteaux, certaines peintures rococo, mais il va très rarement, je pense, avoir en tête des histoires plus populaires du 18e siècle et encore moins avoir en tête une vision d'un 18e siècle métissé, d'un 18e siècle où il y a, qui est déjà en fait mondialisé, le terme est peut-être un peu trop fort, mais qui est un 18e siècle qui est pleinement ouvert sur le monde, parce que à l'époque, c'est bon, le monde entier est connecté, y a les routes maritimes sont largement ouvertes, donc on a régulièrement des personnes qui arrivent en France et qui ne sont pas originaires d'Europe. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais aussi faire passer dans ce livre. On n'en a pas beaucoup parlé, mais au-delà du portrait de Casimir Fidèle, j'ai vraiment voulu montrer comment Casimir Fidèle, c'est vraiment un homme du 18e siècle. Certes, avec son destin très particulier et assez exceptionnel, mais il est pleinement un homme du 18e siècle par, par sa naissance et par sa déportation, par la société dans laquelle il évolue. On est revenu dessus, mais son parcours comme chef cuisinier, ça c'est très typique aussi du 18e siècle. Et donc c'est aussi ce que je voulais faire revivre dans ce livre-là, c'est le parcours de Casimir Fidèle et aussi un récit différent du 18e siècle. C'est pour ça que des fois, je me permets d'avoir des passages un peu plus narratifs ou des passages où je parle un peu plus généralement de la société française d'Ancien Régime, mais parce que je pense que c'est essentiel à la fois pour comprendre le destin de Casimir et qui il était et comment, en fait, une fois qu'on se penche sur cette histoire, son histoire, elle est plus si étonnante que ça, en fait. Il y a pas... Il a cassé beaucoup de plafonds de verre, certes, mais s'il a existé dans ce siècle-là, c'est bien que tous les éléments étaient réunis pour faire en sorte que son histoire existe. Et donc, je voulais aussi un peu remettre en cause là cette vision très blanche, très monochromatique qu'on a du 18e siècle, parce que moi, ce qui me passionne dans ce siècle, c'est comment il y a plein de choses en germe de notre société contemporaine, comment il y a plein de... Enfin voilà, c'est vraiment un siècle qui est fascinant à plein d'égards, et je trouve que la meilleure manière de le raconter, c'est pas de le raconter du point de vue des puissants et de ceux dont on a retenu les noms dans le livre d'histoire, mais c'est encore de se placer vraiment à hauteur de certains anonymes comme Casimir Fidèle.
Et en l'occurrence, vous prenez donc un esclave noir, ce qui est quand même très très particulier. Donc Casimir Fidèle est affranchi, il est libre, il se marie, on l'a dit, il va donc diriger l'hôtel de l'Empereur, qui est un hôtel de grand standing. Hein. Il dirige cet hôtel, ça marche très très bien. Et il y a un aspect intéressant, déjà, il y a deux choses intéressantes que vous soulignez donc, une fois qu'il a la direction de cet hôtel, c'est que comme si le fait d'avoir été donc, cuisinier au sein de cette famille a été une formation pour lui.
Ouais.
Ça c'est un point très très important.
Ouais.
Et deuxième aspect, vous dites qu'il ne fréquente du tout d'autres noirs.
Oui. Alors, je vais revenir sur la première partie, mais effectivement, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai comparé à la fois son vécu dans la famille des Sessions de la Montaigne, où il était dans un hôtel particulier assez similaire à celui qui sera le sien lorsqu'il est à la tête de l'hôtel de l'Empereur, qui a vécu, pareil, avec une domesticité qui est de l'ordre de 12 domestiques. Et lorsque j'appliquais ça à l'hôtel de l'Empereur, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similarités. Le quartier est le même. L'hôtel, dans son organisation générale, est sans doute très ressemblant à ce qu'il connaissait avant. Il est à la tête d'une équipe de 8 à 9 domestiques de manière permanente. Donc moi, effectivement, une de mes convictions, c'est que si l'hôtel de l'Empereur marche aussi bien, parce que son affaire va durer 15 ans, où on sait qu'il va beaucoup s'enrichir,
parce qu'on a des preuves d'achat de propriété, etc. Et j'ai l'intime conviction que si ça marche aussi bien, c'est que d'une part, c'est vraiment une affaire de couple qu'il mène avec Ursule la chaise, mmh. en sachant chacun s'appuyer sur les forces de l'autre. Et c'est aussi qu'effectivement, en fait, lui, ça fait des années que concrètement, il fait ça, que son métier, c'est to entertain, c'est divertir l'élite, c'est leur donner à manger, c'est gérer des équipes de domestiques pour l'envoi des plats. Donc, en fait, quand il se retrouve à être son propre chef et sa propre voix, c'est pas non plus pour lui une entière découverte. Il a des années et des années d'expérience et de connivence aussi avec ces élites-là. Il sait de ce dont elles ont besoin. Il sait ce qui leur ferait envie, ce qui leur ferait plaisir. Et c'est ce qui explique aussi son succès. Et ça va derrière sa marque de fabrique, puisque comme vous l'avez dit, Casimir Fidel, c'est pas un homme qui va se rapprocher des gens qui lui ressemblent. Il est par exemple quasiment, à une exception près, mais complètement absent de tous les réseaux d'affranchis que l'on peut analyser à Bordeaux. Mmh. Donc des affranchis qui vont se retrouver à l'occasion des mariages.
Alors c'est une précision, précision oui. Affranchi, donc c'est un noir qui est libre.
Exactement,
c'est ça.
Qui est libre et qui avant était esclave. Qu'on distingue des libres de naissance, qui eux sont des personnes souvent métisses, qui sont libres de naissance, voilà, qui n'ont jamais été esclaves de leur vie, et qui souvent d'ailleurs elles-mêmes sont propriétaires d'esclaves. Donc à Bordeaux, on a tout un réseau d'affranchis, d'une 80-100 personnes à peu près, qui, pour la plupart d'entre elles, se connaissent. Ils sont présents au mariage, aux enterrements, au baptême des enfants. Et Casimir Fidel, alors même que sa position est vraiment prééminente dans la société bordelaise de l'époque, est complètement absent de tous ces schémas-là. Parce que lui, effectivement, sa carte à jouer, ça va peut-être de se dire « je vais nouer des liens avec ceux que je connais le mieux ». Et en l'occurrence, ce qu'il connaît le mieux, c'est l'élite bordelaise et l'élite européenne en général, puisqu'on a quand même aussi une homogénéisation des goûts, des attentes, etc. Et donc, lui, c'est vraiment dans ça qu'il va s'investir, qu'il va nouer des liens avec certaines personnalités du Bordeaux de l'époque, qu'il va aller chercher des clients aussi qui sont vraiment des clients riches. Et lui, on voit bien dans sa manière dont il conçoit son hôtel, qu'il le conçoit vraiment comme un espace de divertissement et un espace de, aujourd'hui, on dirait un all-inclusive, quoi. Mmh. C'est-à-dire que les personnes riches arrivent et puis, riches, même extra-riches arrivent et puis elles ont tout à porter, elles ont leur logis, elles ont évidemment les repas que prépare Fidel tous les jours. Il a leur disposition des domestiques qui peuvent les coiffer, les habiller. Il a dans sa cour des petites voitures du tas de places que les personnes peuvent mobiliser pour se déplacer dans Bordeaux. Donc clairement, c'est aussi un vrai entrepreneur en affaires et il sait très bien comment cibler cette élite voyageuse-là pour répondre à leurs besoins. Et pareil, après aussi, il s'en sert pour créer du réseau, nouer des relations. Moi, je le perçois aussi comme une manière de se prémunir de tout problème, parce qu'il sait que s'il a un problème financier, par exemple, c'est aussi des personnes qui sont riches, qui peuvent potentiellement l'aider à passer de mauvaises passes, qui peuvent faire jouer de leurs relations s'il a un problème juridique ou que sais-je. Donc, on sent que pour lui aussi, c'est des réseaux qui sont plus importants à entretenir que les personnes qui, comme lui, ont été esclaves.
Et d'ailleurs, à un moment, vous soulignez, par exemple, que Casimir Fidel portait une montre d'argent, son gilet. Vous prenez le temps de décrire des détails comme ça pour montrer qui il était. Il était élégant, il avait beaucoup d'argent, il gagnait bien sa vie à un moment.
En fait, ce qui est intéressant avec Casimir Fidel, c'est que donc j'ai quelques archives où il signe, mais en fait, j'ai pas d'archives où c'est lui-même qui a écrit. Par contre, on a conservé beaucoup, beaucoup d'annonces dans la presse bordelaise qui parlent de l'hôtel de l'Empereur ou qui parlent de Casimir Fidel. Et effectivement, dans ces annonces, des fois, au-delà de la gestion de l'hôtel, on voit ressurgir qui était Casimir Fidel. Notamment, il passe des annonces quand il perd des objets précieux, donc pour cette fameuse montre, pour une broche aussi qu'il a offert à sa femme, une broche de diamant. Et puis, il a des chiens, par exemple, qui sont régulièrement avec lui. Donc, c'est ça aussi que je trouve intéressant avec Casimir Fidel, c'est qu'on arrive à percevoir un peu aussi qui il est derrière le masque. C'est comme ça que j'ai intitulé ce chapitre, où j'essaye un peu d'entrer dans l'intimité de Casimir Fidel, qui il est derrière cette figure de réussite et sociale, économique, de traiteur, qui était l'homme. J'ai essayé, c'est pas forcément facile et potentiellement pareil, dans quelques années je ne serai plus d'accord avec moi-même. mais ça qui est fascinant de cette figure, c'est qu'on sent, il y a vraiment un côté un peu nouveau riche, sans jugement de valeur aucun dans ce terme qui n'était pas très bien choisi, mais on sent qu'il veut montrer aussi au monde qu'il a réussi. Et c'est quelque chose qui est très important pour lui, de montrer cette richesse-là et de ne pas s'en cacher. C'est pas quelqu'un qui se cache globalement, Casimir Fidel.
Alors, donc, l'hôtel va être victime d'un incendie. Donc, on est en 1789, donc ça, c'est un premier choc. Le deuxième choc qui va survenir, c'est quand même la Révolution française. Donc la prise de la Bastille, les revendications des Noirs libres, tout cela semble lui rappeler finalement qu'il est un Noir. Alors, il va s'engager, il va avoir une action politique avec deux autres personnes qui sont Dubourg et Salmon. Je vais vite.
Mais il faut. On ne peut pas tout dire. Il y a le livre pour ça.
Le livre pour ça, bien sûr. Et donc, il va faire partie de ses représentants qui va donc se présenter donc à Paris devant donc
l'Assemblée nationale.
Devant l'Assemblée nationale. Donc, déjà, c'est étonnant. On parle de l'homme d'affaires qui va jouer un rôle politique. Encore une fois, un Noir affranchi.
Oui, oui, absolument. Bah, c'est un peu l'ultime fait d'armes, fait de gloire de Casimir Fidel. C'est effectivement cette délégation qu'il mène aux côtés de deux autres libres, eux libres de naissance, mais qui sont pareils d'origine africaine, qui va consister à monter à Paris au moment où l'abolition de l'esclavage est abolie, puisque, contrairement à ce qu'on nous enseigne dans le livre d'école, l'esclavage n'a pas été aboli, en tout cas pas que en 1848. Avant, il avait aussi été aboli en 1794.
Sous la Convention.
Exactement. Mmh. Donc, il monte à Paris dans l'idée de féliciter les députés qui ont voté cette loi, sachant que cette délégation a été précédée à Bordeaux, comme dans beaucoup d'autres villes, par des célébrations dans la ville. L'organisation d'une fête. Donc, il finit par monter à Paris avec ses deux collègues, amis, compatriotes. Et effectivement, il se rend devant la Convention. Et là, on a vraiment une collision entre la vie de Fidel et puis des figures très connues de l'histoire de la Révolution française, puisqu'ils vont faire le tour de toutes les grandes institutions parisiennes. Ils vont d'abord se rendre à l'Assemblée nationale, puis devant la Commune parisienne. Et leur délégation va se finir devant le Club des Jacobins. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'ils interviennent le même soir que un soir où le député Bellé prend la parole, qui aujourd'hui est sans doute la figure de député noir la plus connue, puisqu'on a ce magnifique tableau conservé. Et donc, qui était le premier député, qui faisait partie des premiers députés noirs de Saint-Domingue, qui après beaucoup de péripéties est arrivé à Paris. Et donc, on sait que dans cette salle-là, ce même soir, on a à la fois des délégués bordelais. Donc, globalement, on a un peu oublié l'histoire, parce que aussi leur rôle politique était moins important que celui de Jean-Baptiste Bellé, et puis aussi des très grandes figures de députés comme Jean-Baptiste Bellé. Donc c'est ça aussi qui est fascinant, c'est que du coup, dans ce séjour parisien, on a la rencontre entre Casimir Fidel et des figures emblématiques, en tout cas pour tous ceux qui s'intéressent à la Révolution française. On n'a peut-être pas tous les mêmes intérêts, mais bon, pour moi, c'était des figures emblématiques. Mais c'est une délégation qui, pour Casimir Fidel, n'est pas vraiment suivie des faits, puisqu'en fait, on a ce phénomène très étrange où, après être monté à Paris, il disparaît complètement des archives jusqu'à son décès. Donc je me livre à plusieurs suppositions pour expliquer ce retrait de la vie politique qui n'est pas d'ailleurs le retrait, qui n'a pas du tout été... était le cas de ses autres camarades qui, eux, ont continué à être actifs politiquement, à signer des pétitions, etc. C'est pas le cas de Casimir. Donc voilà, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer cet effacement dans les archives. Et donc, il meurt à Paris en 1796.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon Émile.
Avec Julie Duprat, nous évoquons la figure de Casimir Fidel. Dans le livre de Casimir Fidel, 1748-1796, Parcours de l'affranchi chez CNRS Éditions. Vous évoquez donc la mort de Casimir Fidel, Gilles Duprat, c'est intéressant la façon dont vous le présentez dans le livre. Vous dites, quand vous découvrez qu'il est mort, on a comme l'impression que c'est donc ça se passe pendant le Covid, donc on est en 2020. Et vous écrivez ça comme si c'était une personne contemporaine que vous fréquentiez au quotidien.
Oui, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Dans les faits, ça faisait des années que je l'avais rencontré, mais que je n'avais jamais réussi à mettre la main sur son certificat de décès. Donc je pense que tous les historiens, même si on a beau savoir que d'un point de vue très logique. On n'étudie pas des personnes qui sont capables de vivre 300 000 ans et qu'on sait qu'elles sont forcément mortes. On le sait, on a beau le savoir. C'est quand même quelque chose quand on tombe sur les certificats de décès des personnes que l'on connaît, parce que ça représente vraiment la borne ultime de notre travail, il ne peut pas aller au-delà. Et moi, en l'occurrence, c'était aussi un certificat que j'avais cherché longtemps. Je pensais qu'il était mort à Bordeaux. J'avais beaucoup, beaucoup de questions. Et donc, de trouver ce certificat, ça a vraiment été une découverte. À la fois parce que bon, ça m'a confirmé que Casimir Fidèle était bien mort. J'avais pas besoin de confirmation, mais il y a quand même cette impression qu'on nous apprend une nouvelle, quoi, comme si on nous apprenait effectivement qu'un proche était décédé. Et puis, ça m'a permis de tirer les derniers fils de ce qu'avait été sa fin de vie. Donc oui, ça a été assez déterminant. Et je parle aussi de la réaction de mon compagnon qui n'a pas compris pourquoi j'étais aussi émue, parce que vraiment, j'ai pleuré à plusieurs fois en faisant cette recherche, en découvrant certaines archives importantes. Et la découverte de son acte de décès, ça fait partie des moments où j'ai vraiment pleuré d'émotion. Et je pense qu'effectivement, si on n'est pas chercheur et qu'on n'a pas été comme ça aussi obsédé par une figure, qu'on n'a pas été dans ce... même sans être chercheur, obsédé par quelque chose en particulier, et qu'on trouve ce qu'on cherchait depuis très longtemps... et en plus, là, c'était... Bon, il était décédé, donc voilà. Bref, c'était un moment qui était très particulier pour moi, mais je pense que je suis pas la seule à... J'espère ne pas être la seule à le vivre ainsi parmi les historiens. Mais,
ouais. Et en lisant votre livre, Julie Duprat, moi, je comprends que à l'intérieur de vous-même, vous n'avez pas fini d'écrire ce livre. Il y a cette fameuse phrase dans la peinture, hein, qu'on attribue soit Cézanne ou Giacometti, on n'achève pas une toile, on l'abandonne.
Ouais.
J'ai l'impression que vous n'avez pas achevé ce livre, vous l'avez mis de côté, et que en vous, vous n'avez pas fini.
Alors, je dirais quand même que je l'ai quand même achevé, parce qu'à un moment, il faut... Je pense qu'un les deux, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que je pense honnêtement avoir mis dedans tout ce que je pouvais y mettre. À l'heure actuelle, je ne peux pas... mettre d'autres choses dans ce livre-là. J'ai pas plus d'archives à y mettre. J'ai pas d'autres hypothèses. À la limite, j'ai des remords, comme beaucoup de personnes qui ont écrit un livre, où je me dis, ah là, j'aurais pu utiliser tel mot, là, j'ai pas été assez claire. Mais globalement, je ne peux pas y mettre plus que ce que j'y ai mis. Après, il y a un sentiment d'abandon, et c'est aussi comme ça que je conclue le livre. Je dis, je vous le laisse. C'est qu'il y a un moment aussi où, face à ce trop plein d'archives, face à toutes ces années passées à rechercher sur lui, il faut accepter que, un moment, c'est plus notre moment, c'est plus notre temps. On a fait ce qui est en notre pouvoir, mais on ne peut pas non plus s'y accrocher comme ça pendant encore 20, 30 ans. Donc, moi, je crois que c'est aussi un livre qui est important pour moi, pour me permettre de passer à autre chose, même si Casimir Fidèle ne me quittera jamais, hein, soyons très clairs. Je pense que.
Ça, on l'a compris.
C'est vraiment la personne qui est le plus ancrée en moi, sans doute, dans ma recherche. Mais il y a quand même cette idée que, voilà, il y a un moment où il faut aussi sortir ce qu'on a à sortir. Et après, les gens feront ce qu'ils en feront, ils y prendront ce qu'ils auront à prendre, mais je ne peux pas non plus être dans un hyper-contrôle de tout ce que j'écris, de tout ce que je publie, tout le temps décaler la publication en me disant « je pourrais faire plus, j'ai pas envie qu'on déforme mes propos ». Enfin, il y a un moment, voilà, il faut accepter aussi, je crois, de lâcher un peu. Et donc, c'est comme ça que je conclue en disant « je vous le laisse ». Donc voilà, c'est aussi mon espoir, c'est que... Casimir rencontre d'autres personnes et qu'il va réveiller d'autres choses chez eux, faire écho à d'autres, va répondre à certaines questions, faire écho à d'autres problématiques qui ne sont pas forcément les miennes, et c'est tout à fait normal.
Et vous, Julie Duprat, vous travaillez donc au sein de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. En quoi consiste votre rôle de membre du conseil scientifique de cette fondation ?
Alors, j'y travaille pas dans le sens, je ne suis pas payée pour être à la Fondation pour le mémoire de l'esclavage, ce n'est pas mon métier à temps plein. J'appartiens au conseil scientifique de la Fondation, qui rassemble un consortium de plusieurs dizaines de scientifiques, à la fois historiens, sociologues, ethnologues, plein de, souvent comme issus des sciences humaines et sociales, qui bénévolement viennent apporter leur expertise à la Fondation. On a donc des réunions régulières dans l'année pour se tenir au courant de ce qu'il se passe, de ce qu'on pourrait faire. Et donc le but de la Fondation, c'est vraiment de faire en sorte que la question de la mémoire de l'esclavage devienne un enjeu politique et un enjeu de société en France, en formant mieux les enseignants, qui eux-mêmes formeront mieux les élèves, en montrant aussi que c'est une question qui doit être portée d'un point de vue politique, qui doit trouver des financements, qui doit trouver des subventions, Donc il y a aussi tout un travail de conviction qui menait de leur côté, de soutien à la création, de soutien à la vulgarisation. Ils ont une activité eux-mêmes d'ailleurs de vulgarisation sur des... sur Instagram ou sur TikTok à destination de la jeunesse. Donc nous, on est vraiment là pour les accompagner, pour offrir notre expertise quand ils ont besoin d'avoir des relectures scientifiques, d'être sûr qu'ils n'avancent pas des choses fausses. On participe aussi des fois à des travaux collectifs pour rédiger des rapports. Le plus récent, c'est le livre blanc de la recherche qui a été mené par Dominique Rogers et qui a vocation à faire un état des lieux de la recherche en France à l'heure actuelle autour de l'esclavage colonial et des sociétés postcoloniales, en espérant pouvoir mettre en œuvre des groupes de travail et peut-être trouver des subventions, enfin faciliter le travail des historiens autour de la question en France, puisqu'à l'heure actuelle, on n'a pas de chaire, par exemple, autour de l'esclavage en France, de l'histoire de l'esclavage. Donc souvent, les personnes sont les seules de leur université à travailler sur la question et on travaille de manière assez éclatée. Donc voilà, c'est une des problématiques. Et puis moi aussi, je fais beaucoup de formations auprès des enseignants, souvent 3-4 fois dans l'année. Je me déplace et je fais des formations dans le cadre des formations académiques où je forme mon sujet d'expertise qui est donc la question de l'esclavage en France hexagonale, en donnant des ressources, en donnant des pistes, certains éléments aussi de base, typiquement le sol de France ne rend pas libre. Voilà, donc j'ai aussi ce travail-là de formation que je trouve très important et je trouve ça très bien que ça existe aussi parce que moi j'ai pas l'énergie évidemment d'aller dans chaque école mais par contre de former des enseignants qui eux-mêmes pourront avec leurs élèves s'approprier ce sujet, je trouve que c'est vraiment essentiel.
Je signale que sur le site de la Fondation, il y a des dossiers très très fouillés, très très intéressants. Oui. Alors dans cette optique justement, Julie Duprat, que peut apporter donc ce livre, l'histoire de Casimir Fidel, dans cette démarche justement de vulgarisation? Oui. C'est, encore une fois, donc, quand on fait l'histoire, on parle... Faire de l'histoire, c'est parler du présent, finalement.
Oui, absolument. Ouais, et j'ai conscience qu'en... Et de manière, j'écris Casimir Fidel en voulant parler du présent aussi. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il a cette forme un peu hybride. C'est pour ça que j'en ai pas fait un écrit académique pur et dur. Je voulais vraiment que ce soit un livre que tout le monde puisse lire, mm-hmm. même sans avoir une formation d'historien. Bien sûr. Je voulais que mes parents, qui ne sont pas historiens, puissent le lire facilement. Ils ont réussi à le lire facilement, donc je suis contente de moi. Donc l'idée avec ce livre, effectivement, c'était d'interroger notre rapport au présent et évidemment notre rapport à la race en particulier. Montrer qu'il n'y a pas de... Enfin, que nos aînés ont fait des choses vraiment incroyables qui méritent d'être mises en valeur aussi. Que les personnes qui sont originaires de la diversité, comme on dit, elles sont tout à fait légitimes à être françaises, en fait. Il n'y a même pas de question à remettre en cause d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles apportent à la France, parce qu'en fait, ça fait des siècles qu'elles font partie de la population française. Moi aussi, je trouve que Casimir Fidel, c'est une figure qui est assez inspirante pour la jeunesse. Je sais que... Donc, j'avais fait une intervention il y a plusieurs années auprès d'un collège bordelais, et lorsqu'il a fallu renommer le collège, mais ils ont choisi Casimir Fidel comme nom de leur collège. Mmh. Donc aujourd'hui, à Bordeaux, il y a un collège qui s'appelle Casimir Fidel et qui a été choisi par tous les élèves. Il y avait plusieurs noms et c'est celui qui a été préféré. Et notamment, c'est un dossier qui a été porté par l'école, enfin la classe auprès de laquelle j'étais intervenue. Je crois qu'à l'époque, ils étaient en 6e ou en 5e. Et donc, quelques années plus tard, ils étaient en 3e. Et donc, ce parcours-là l'avait beaucoup marqué. C'est un collège qui est en zone REP+, enfin, qui ne fait pas partie des collèges les plus riches de Bordeaux, loin de là. Et donc, d'avoir l'exemple d'un homme issu de l'immigration qui réussit, qui trace sa route, je pense que ça les a aussi marqués et inspirés, même si je pense qu'il ne faut pas non plus... Évidemment, l'idée, c'est pas non plus d'idéaliser le parcours de Fidel. Fidel, il a aussi réussi parce qu'il a eu beaucoup de chance dans son parcours. Il a rencontré des personnes qui l'ont effectivement protégé et soutenu, mais il y a plein de gens avec sa position et les mêmes cartes en main qui ne sont jamais sortis de l'esclavage. Mais je pense que c'est malgré tout intéressant d'avoir, en tout cas, d'avoir ce récit-là en parallèle des récits qu'on entend habituellement. D'ailleurs, même, on n'entend même pas, je trouve, à vrai dire, des récits d'esclaves. On reste toujours sur, comme vous l'avez dit en début d'émission, une espèce de masse informe comme ça, où on n'individualise pas, on nomme pas, on rend pas intime cette histoire. Et donc, l'idée, effectivement, avec cette biographie-là, c'est aussi de pouvoir ouvrir l'imaginaire, je pense, et proposer une alternative à l'image qu'on se fait de la France d'Ancien Régime, qui, je trouve, moi, est très sclérosante. Et nous aide pas beaucoup à penser notre présent et notre avenir aussi.
Je rappelle le titre, Casimir Fidel, 1748, 1796, Parcours de l'affranchi, chez CNRS Édition. Merci beaucoup, Julie.
Merci, Poirier,
merci infiniment. Le temps de nous séparer, de remercier Armand Gury qui était à la technique ce soir. Merci à vous, amis auditeurs et amis auditrices, de nous avoir écoutés. Dans un instant, c'est Dancehall Reggae Vibes. Et à 22h30, c'est Audiométrique. Bon week-end à l'écoute d'Aligre FM. Je vous retrouve samedi prochain, 19h. À bientôt.
Version originale. Patrick, Léon Émile.
Waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got to win the baby on my bitch's student loan check. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson's bitch a potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. Bet they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The evasive black American gangster sent us the corner hugger. Seeing this nigga shining, annoying me like a motherfucker. This buster owe me, now he act like he don't owe me. 44, my closest homie, kill cockroaches like Tony. Got Montana motors. You bought 100 different fluid, yo, I had to smoke it. Pupils dilated like silver dollars, now we lookin'. Call it devilish how I do biz. Fuck these niggas talking, I leave their thoughts on my shoestrings. What? Straight to FNH is what I'm holding. A buster that we know got 50 bowls, bust it open. We came banana up, divided up, now what's the quotient? I split with four niggas since I'm a go-getter. I think these suckers pussy, I'ma murk the whole litter. Told my girl to leave as soon as I hung up the phone with her. Man, I heard you robbed the robbers. Look, Freddy, you cold nigga. Got an ice maker for a heart made nigga from the...
Vous écoutez Aligre FM 93.1.